L'histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, nous sommes avec Florence de Bauduis pour évoquer Napoléon face aux souveraines de son temps. Donc cette pauvre Pauline qui va se remarier après la mort du général Leclerc avec le prince Camillo Borghese sera très malheureuse avec lui, mais on a le sentiment qu'elle reste dans les mémoires uniquement dans ce rôle de princesse Borghese immortalisée par la statue de Canova. Oui. Mais ça ne se borne pas à ça.
Non, alors je crois qu'elle c'est une femme blessée. C'est une femme qui a donc eu plusieurs maladies, toutes invalidantes et toutes extrêmement douloureuses. Et la mort de son mari, on a beau dire « Oh mais oui, mais on ne parle jamais du chagrin, de la douleur qu'a pu avoir Pauline. » Or, pourquoi est-ce que Pauline n'aurait pas été... Elle le dit dans certaines lettres, que c'est affreux d'avoir perdu son enfant et de ne pas en avoir d'autres. Donc c'est vraiment une douleur qui la mine. Elle a perdu Leclerc, et je pense que Leclerc est peut-être un des hommes qu'elle a aimé. Camille Borghese, après, elle ne l'a jamais aimé. Elle était flattée d'être princesse Borghese. Et encore, Pauline était certainement celle, parmi toute la fratrie, qui n'avait pas d'ambition. Elle avait l'ambition d'être celle que son frère voulait qu'elle soit. Elle était très obéissante avec les ordres. Chaque fois que son frère lui donnait des ordres graves, elle obéissait. Bon, pour les caprices, ça c'était autre chose. Quand elle voulait de l'argent, ou quand elle voulait acheter une maison, ou partir pour des cures un peu dans tous les endroits, parce qu'elle a passé sa vie à essayer de se guérir par les cures, comme c'était très à la mode à ce moment-là. Mais sinon, c'est une femme malheureuse. Et elle a cherché, dans les amants qu'elle a pu avoir, un certain nombre, mais certainement beaucoup moins que le nombre qu'on lui prête, elle a cherché un amour... L'amour qu'elle ne trouvait plus, qu'elle n'avait plus.
C'est une femme malheureuse. Est-ce que sa sœur Caroline, qui a fait un mariage d'amour en épousant Joachim,
oui,
Murat, qui est un personnage tout de même assez fascinant, on peut apprécier ou ne pas apprécier le rôle de Murat, mais c'est un personnage fascinant.
Ah oui, oui, oui.
Est-ce que Caroline Murat, on l'a... Alors elle, c'est la traîtresse, celle qui aurait entraîné son mari dans les chemins de...
C'est celle qui est étiquetée traîtresse.
Mais est-ce qu'elle l'est?
Alors là, il nous faudrait 3-4 heures pour pouvoir décrypter cela, parce que Napoléon a eu beaucoup de tort à ce moment-là. Elle ne voulait pas, elle avait peur que Naples devienne effectivement une partie de l'Empire français, et cela, ni Murat ni elle ne le voulaient, et puis c'était le début de la chute de Napoléon. Quand elle a commencé à comprendre que Napoléon était en train de perdre son empire, donc au retour de la campagne de Russie, si vous voulez, là, c'était une mère, Caroline, c'était une mère, Murat aussi d'ailleurs, ça, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais c'était des parents absolument aimants et voulant un héritage pour leurs enfants. Et ils se sont imaginés, bien sûr à tort, qu'en s'alliant avec l'Autriche, ils pourraient conserver le royaume de Naples pour leurs quatre enfants, qui devaient être l'héritage de leurs enfants. Alors, on peut...
Il y a tout de même une certaine naïveté là-dedans, parce qu'il ne faut pas oublier que la reine de Naples, Marie-Caroline, est archiduchesse d'Autriche.
c'est une grande naïveté, mais en tout cas, il y avait une chose qui était sûre, c'est qu'en restant fidèle à Napoléon, ils le perdaient sûrement. Ils ont conservé leur royaume encore un an de plus, c'est-à-dire l'année 1814, mais au prix de quel, effectivement, d'être perçu pour la suite par toute l'histoire, d'être perçu comme des traîtres.
Alors, pour le moment, nous avons évoqué ces princesses de la famille impériale qui, avec plus ou moins de bonne volonté, se plient aux volontés de Napoléon. Mais il y a d'autres femmes, des souveraines régnantes qui, elles, ne vont pas accepter, parce qu'elles ne sont pas de la famille impériale, de se plier aux caprices de celui qu'elles regardent comme l'ogre de Corse. Nous évoquions à l'instant Florence de Bauduis, la reine de Naples. Marie-Caroline, c'est un personnage étonnant, elle aussi.
Oh, fascinant, fascinant. C'est une sœur de la reine Marie-Antoinette. C'est une petite sœur de la reine Marie-Antoinette. Comment voulez-vous qu'elle pardonne à la France ce que la France a fait subir, ce que la République française a fait subir à sa sœur? Donc elle garde une haine viscérale dont elle ne pourra pas se séparer de ceux qui ont guillotiné sa sœur, qui qui ont fait mourir son neveu, le petit Louis XVII, et qui ont tout de même rendu très malheureuse aussi sa nièce Marie-Thérèse. Donc cela, elle ne peut pas le pardonner. Mais lorsque Bonaparte arrive, elle est, parce que c'est une femme extrêmement intelligente, Marie-Caroline, elle comprend tout de suite qu'elle a affaire à un génie. Les mots qu'elle emploie, parce qu'on a aussi là encore une correspondance passionnante avec le marquis de Gallo, qui est son ambassadeur à Vienne, et à qui elle écrit des lettres de 4-5 pages. Mais c'est à la fois drôle. Bon, par moments, elle est complètement à côté de la réalité. Mais elle se dit, mais dans le fond, Bonaparte, c'est peut-être celui qui peut sauver l'Europe. Et à un moment, elle dit qu'il faudrait tuer Napoléon, tuer Bonaparte, c'est encore Bonaparte à l'époque, le découper en morceaux et donner un morceau à manger à tous les souverains. Peut-être qu'à ce moment-là, les souverains d'Europe deviendraient de véritables souverains. Vous voyez le genre de choses qu'elle peut arriver à dire, à écrire dans sa correspondance. Mais c'est une femme fascinante.
Mais elle est la grand-mère de Marie-Louise, la seconde épouse de Napoléon.
Elle est la grand-mère de Marie-Louise parce que sa fille, Marie-Thérèse, parce que vous savez, c'est compliqué avec les prénoms, hein, mais sa fille, Marie-Thérèse, a épousé son neveu, donc François, qui est le dernier empereur du Saint-Empire romain germanique et qui va être privé de ce titre après la victoire d'Austerlitz et qui va devenir le premier empereur d'Autriche. François et Marie-Thérèse auront 12 ou 13 enfants encore, parce que ce sont des femmes extrêmement fécondes, les Autrichiennes, sur ce plan-là. Et Marie-Louise est la fille aînée, en effet, de Marie-Thérèse de Sicile et de François d'Autriche.
Et à la naissance du roi de Rome, Marie-Caroline de Naples a ce cri du cœur « Mon Dieu, je suis devenue la grand-mère du diable ».
Oui, mais en même temps, elle va être chassée de sa Sicile, et elle a déjà été chassée de Naples, elle va être chassée de la Sicile, et elle ira mourir à Vienne, et elle aura donc le temps de retrouver Marie-Louise et de connaître le petit roi de Rome, pour lequel elle aura une affection spontanée et débordante, et elle dira à Marie-Louise, mais ton rôle est d'aller retrouver ton mari, et même de passer par la fenêtre, mais d'aller retrouver ton mari, tu es sa femme et tu dois aller le retrouver. Elle ne comprenait pas la pusillanimité, la lâcheté de Marie-Louise à ce moment-là.
Alors, il y a une autre figure que vous évoquez, l'actualité malheureusement s'y prête, c'est celle de la tsarine Élisabeth.
Ah oui.
Parce que, en fait, en se penchant sur ce destin de femme et sur celui de son époux Alexandre Ier, nous comprenons que le problème, c'est qu'il ne faut jamais toucher au territoire de la Sainte-Russie.
Ah oui, ah oui. Napoléon a voulu conquérir l'Empire et il a perdu 600 000 hommes et il a perdu sa couronne.
Ce qui est une faute majeure, parce qu'il s'est enfoncé dans cette Russie qui, quel que soit le régime, ne tolère pas en effet que l'on touche à la sacralité de son territoire. Mais c'est une figure étonnante, Élisabeth, parce que d'abord elle est très jolie, du moins si on croit les portraits de l'époque.
Oui.
Et d'autre part, on veut à toute force lui prêter une influence politique qu'elle n'a en fait, me semble-t-il à vous dire, aucune envie d'exercer. Le véritable, le tsar, le vrai tsar, c'est Alexandre.
Oui, mais je pense que le véritable cerveau, c'était elle. Je pense qu'elle aurait pu jouer un rôle politique, mais les événements intimes de sa vie ont fait qu'elle n'a pas pu le faire. Le début, elle est mariée, c'est une princesse de Bade. Elle est mariée, donc une princesse allemande. Elle est mariée avec le jeune grand-duc Alexandre. D'ailleurs, Catherine de Russie, qui est encore vivante à l'époque, a beaucoup d'admiration pour elle. Et on a l'impression que ce jeune couple va pouvoir avoir un rôle, une influence magnifique dans l'Empire russe. Et puis, alors d'abord, elle n'a que deux enfants, deux filles qui vont mourir toutes les deux à l'âge de 2 ans. Donc ça, c'est encore... Il ne faut jamais sous-estimer le drame de ces femmes qui perdaient leurs enfants.
On a toujours tendance à croire qu'étant donné l'énorme mortalité infantile, les parents étaient blindés contre ce genre de malheur, mais c'est très loin d'être la vérité.
Et même les pères, Alexandre, est déchiré par la mort de ses filles. Et le couple se défait parce que Alexandre, c'est un homme de son époque. Et il a, parmi toutes les maîtresses qu'il a, il y en a une, la princesse Narychkine, qui va être vraiment la seconde femme, si vous voulez, la seconde épouse d'Alexandre. Et Élisabeth se blinde, se referme et ne voudra plus. On a l'impression qu'elle s'éteint, si vous voulez. Alors que c'était une femme qui avait une culture que n'avait pas Alexandre. Elle parlait couramment plusieurs langues. Elle était très intéressée. C'était une femme extrêmement religieuse. Elle avait dû faire allégeance à l'Église orthodoxe. Elle était protestante de naissance, mais elle avait dû porter allégeance à l'Église orthodoxe en se mariant. Et elle n'est plus rien. Elle n'est rien. Alors peut-être est-ce la souffrance, est-ce l'orgueil blessé de ne plus régner sur le cœur de son mari. C'est un échec que je trouve absolument tragique.
Florence de Baudus, je voudrais, pour terminer cette émission, évoquer une dernière figure, parce qu'elle est peut-être la plus touchante, la plus fragile, cette galerie de souveraines qui oseront affronter Napoléon, et également le fait que son destin va avoir une influence capitale et dramatique sur l'histoire de l'Allemagne et de la France, c'est celle de la reine de Prusse, Louise. Alors là, Napoléon a commis une faute majeure en ne prenant pas cette toute petite jeune femme au sérieux.
Oui, alors il avait un grand mépris pour son mari, le roi Frédéric Guillaume III, qui voulait effectivement, qui a d'abord essayé de rester neutre dans toutes ces années de guerre, et puis qui finalement fait subir à son pays des défaites absolument tragiques, et arrive la fameuse rencontre à Tilsit entre le tsar Alexandre et l'empereur Napoléon. Frédéric Guillaume III essaie de courir derrière eux et n'est que méprisé par l'un et par l'autre. Et les ministres de Prusse se disent dans le fond, la reine qui est si belle, si intelligente, si touchante, peut-être pourrait-elle toucher le cœur de l'empereur français et peut-être éviter l'humiliation de la Prusse. Et c'est comme cela qu'une rencontre est organisée à Tilsit entre l'empereur Napoléon et la reine Louise, qui va peut-être se passer bien parce que Louis s'imagine qu'elle a conquis l'empereur et qu'elle a réussi à obtenir un morceau que la Prusse ne soit pas déchiquetée. Et finalement, il ne se passera rien du tout. Napoléon, de toute façon, veut construire un royaume complètement artificiel qu'il va donner à son frère Jérôme, qui va être le royaume de Westphalie, qui est pris un petit morceau de Pologne, un petit morceau de Prusse, enfin bref, un royaume totalement artificiel et qui d'ailleurs disparaîtra en 1815. Et Louis n'aura rien obtenu, si ce n'est l'humiliation. Et cette humiliation va horrifier tous les Prussiens. Et c'est à partir de là que la Prusse va se réveiller et que vous aurez la guerre de 70.
Mais déjà, quand Blücher entre dans Paris en 1814, son mot, c'est « la reine Louise est vengée ».
Absolument.
Mais le Kaiser en 1870, qui est le fils de Louise...
Guillaume.
Oui,
absolument.
Le sentiment de venger l'humiliation maternelle.
Oui, absolument. Il faut faire attention de ne pas humilier les rois et les reines comme cela, parce que il n'arrive que des catastrophes après.
Louis Florence de Baudus, j'ai envie, maintenant que cette émission se termine, de vous poser une dernière question. En vous lisant, on est totalement séduit par les portraits de ces femmes qui, dans leur grande diversité, se révèlent toutes remarquables, touchantes, étonnantes, dans leur fidélité, dans leur fragilité, dans leur faiblesse, dans leur douleur. Faudrait-il, en fait, réécrire l'histoire de l'Empire au féminin ?
Quelle bonne idée ! Pourquoi pas ? Non, mais il n'empêche que c'est vrai que c'est une période militaire, c'est une période où la politique comptait, où beaucoup d'hommes étaient remarquables. Mais je trouve qu'il y a un déséquilibre dans les livres d'histoire entre les hommes et les femmes. Et j'essaie de réparer ce déséquilibre à mon petit niveau.
Parmi cette galerie, laquelle, vous personnellement, vous semble la plus touchante, la plus attachante, celle qui mérite d'être mise en exergue ?
Oh, vous savez, chaque fois qu'on écrit sur un personnage, enfin en tout cas pour moi, je m'attache au personnage. Mais une qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est Stéphanie. La petite Stéphanie de Beauharnais, qui a été mariée, elle aussi, contre son gré, au grand duc de Bade, qui a été extrêmement malheureuse, mais qui a développé, qui, d'une petite fille capricieuse, est devenue une grande duchesse responsable et qui a vraiment été une personnalité magnifique dans ce grand-duché, qui est d'ailleurs la grand-mère de plusieurs souverains de l'Europe aujourd'hui.
Florence de Baudus, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous publiez aux éditions Perrin Napoléon face aux souveraines de son temps, une galerie de portraits féminins tout à fait remarquable, mais également une réflexion sur le rôle des femmes dans la politique de l'époque et même dans la politique tout court. C'est un ouvrage de 448 pages qui est vendu 24 euros et que je recommande à tous nos auditeurs. Florence de Baudus, un immense merci.
Merci Anne Bernet.